South Prize of the Council of Europe has been traditionally awarded every year to two nominees, one from the North, one from the South. The prize rewards their commitment to the defense and promotion of human rights, democracy, and the rule of law. It has been awarded to a variety of actors, former heads of state, members of parliaments, civil society, representatives of local and regional authorities, as it was the case for 2019 with Nabila Hamza and Leoluca Orlando. Through the years, the laureates of the North-South Prize are outstanding examples of courage and resilience in the defense of universal values. They have been reminding us how valid is the mission of the North-South Center and that the standards and values that underpin the existence of the European Center for Global Interdependence and Solidarity are as relevant today as they were 30 years ago. Despite the latest unprecedented challenges we face, the Portuguese House of Democracy will continue to host this 25th North-South Prize Award ceremony for the first time with a hybrid format. Follow the live streaming to join remotely the laureates and a very limited number of personalities accompanying their excellencies, the President of the Portuguese Republic, the President of the Portuguese Parliament, the Secretary General of the Council of Europe, and the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
Bonjour à tous. Je déclare la séance ouverte. Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame la Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, qui nous suit à partir de Strasbourg, Monsieur le Président de la délégation de l'Assemblée de la République du Portugal à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, APCE, Monsieur le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, lauréate Nabila Hamza, lauréat Leoluca Orlando, qui nous suit depuis Palerme, Monsieur l'ambassadeur de la République italienne à Lisbonne, qui se trouve ici en représentation du lauréat Leoluca Orlando, Madame la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération, Monsieur le directeur exécutif du Centre Nord-Sud, Messieurs les vice-présidents de l'Assemblée de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, le Portugal est endeuillé par la perte de Eduardo Lourenço, le professeur, le philosophe, le critique et l'essayiste qui, hier, précisément, jour de la patrie restaurée, nous a quittés dans la fragilité de ses 97 ans. Eduardo Lourenço a été, sans le moindre doute, qui mieux a répercuté l'identité nationale sur ce qu'il en est d'être portugais, sur ce qui nous différencie en tant que citoyens et en tant que peuple à l'échelle universelle, sur ce qu'est la saudade, ce mot si singulier de la langue portugaise pour exprimer la nostalgie dans un monde où tout semble éphémère et où seul le changement semble permanent. Né le 23 mai 1923 à São Pedro de Rio Seco, à Guarda, dans l'arrière-pays du Portugal profond, Eduardo Lourenço de Faria nous laisse un legs qui s'étend bien au-delà de sa vaste œuvre publiée, en se traduisant par l'intervention de toute une vie dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la citoyenneté, justement reconnue par d'innombrables prix et médailles. Et depuis 2016, et de façon si symbolique, lorsqu'il est entré au Conseil d'État sur l'indication de son Excellence le Président de la République, Marcel Rebelo de Sousa, qui lui-même ne pourra être parmi nous aujourd'hui, justement parce qu'il rend en ce moment même un ultime hommage de la part de l'État et du peuple portugais à Eduardo Lourenço lors des cérémonies funèbres qui se déroulent au monastère des Hiéronymites à Lisbonne. Mesdames et messieurs, en hommage à celui qui était la plus grande référence intellectuelle de la lusophonie et pour la mémoire d'Eduardo Lourenço, je vous propose une minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, des mots d'accueil, et je commence par là, envers tous ceux qui nous suivent à distance par l'intermédiaire du canal Parlement, de la plateforme du Conseil de l'Europe ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Empêchés de se joindre physiquement à nous en cette salle du Sénat du Palais de São Bento, siège de l'Assemblée de la République du Portugal, à cause des règles rigides qui ont été déterminées pour le fonctionnement de nos institutions, et ceci dans le cadre de l'état d'urgence qui a été décrété au Portugal depuis le 9 novembre dernier. Les circonstances extraordinaires auxquelles nous sommes actuellement confrontés en raison d'une pandémie qui n'a pas de frontières n'ont pas empêché que nous affirmions l'importance de cette cérémonie-ci et le sens et la signification du prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Il s'agit d'un prix qui distingue deux personnalités, l'une du Nord, l'autre du Sud, pour leur engagement envers les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, en contribuant au dialogue Nord-Sud, en promouvant la solidarité, l'interdépendance et les partenariats, et qui, pour la 25e fois, est remis au sein de l'Assemblée de la République du Portugal. Quoique, avec un nombre très réduit d'invités et de participants présents, la cérémonie de remise du prix Nord-Sud 2019 a été possible, et c'est une réalité, grâce à l'engagement des institutions et des entités impliquées, en particulier, il y a Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, quoi qu'il ne puisse être présent, nous a envoyé un message. Tenir cette cérémonie dans un cadre de pandémie généralisée a, à mon sens, deux grands sens. D'abord, celui de l'importance que le Portugal accorde à l'existence d'un centre européen pour l'interdépendance et la solidarité globale, le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, créé en 1990, dont le siège se trouve à Lisbonne, dans le but de promouvoir le dialogue entre le Nord et le Sud, de promouvoir la solidarité et d'accroître la conscience sur l'interdépendance mondiale. Deuxièmement, le fonctionnement permanent de nos institutions démocratiques, que la pandémie n'a pas fait clore du tout. plutôt, où elle a conduit à des changements quant à la façon d'exercer leurs compétences ou la façon dont se déroulent leurs activités. Et d'ailleurs, cette cérémonie en est un bon exemple. Mesdames et messieurs, l'intervention du président de l'Assemblée de la République au cours de la cérémonie de remise du prix Nord-Sud est traditionnellement, généralement, une intervention d'accueil et de modération d'habitude. Mais permettez-moi de m'adresser aux lauréats de 2019, Nabila Hamza ici présent et Leo Luca Orlando qui nous suit depuis Palerme et qui est représenté ici par M. l'ambassadeur d'Italie, M. Carlo Formosa. Lauréat qui, depuis Mary Robinson, grâce à Michelle et Emma Bonino et Simone Veil, pour rappeler, il y a certaines des femmes qui se sont vues décerner ce prix, ou Bob Geldof, Kofi Annan, Shannon Guzman ou Joaquin Chissan, pour rappeler des hommes qui sont des références universelles. Ces lauréats voient reconnu leur engagement en ce qui concerne la défense des droits de l'homme et l'état de droit, notamment le droit des femmes, dans le cas de la lauréate Nabila Hamza. En spécial, en ce qui concerne les droits des migrants, dans le cas du lauréat Leo Luca Orlando, en défendant tous deux le principe essentiel du respect envers notre semblable. Deux références dans leurs communautés respectives, par la transformation qu'ils ont conduite au niveau local et qui ont acquis une échelle et une importance nationale. Maintenant amplifiée, il y a un niveau encore plus vaste, car ce sont des exemples pour l'ensemble de l'humanité. Mário Soares, ancien président de la République du Portugal et prix Nord-Sud en l'année 2000, affirmé « Seul est vaincu ceux qui baissent les bras et cessent de lutter ». De par leur action quotidienne depuis des décennies, Nabila Hamza et Leo Luca Orlando nous ont démontré qu'il y a encore heureusement des gens qui n'ont pas cessé de se battre face à l'intolérance, à la peur, à la haine, et qu'ils ne cessent de se battre par le travail, par l'exemple, par la positive. En mon nom et au nom de l'Assemblée de la République, organe représentatif de la société portugaise dans sa diversité, je vous dis un grand merci. Merci. Je passe la parole au président du comité exécutif du Centre Nord-Sud, M. l'ambassadeur Manuel Montobio.
Señor presidente de la República, señor presidente de la Asamblea de la República de Portugal.
Monsieur le président de la République, monsieur le président de l'Assemblée de la République du Portugal, monsieur le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, madame la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, monsieur le président de la délégation portugaise à la PCE, Madame la secrétaire d'État, Madame la lauréate Nabila Hamza, Monsieur le lauréat Leo Luca Orlando, par le truchement de Monsieur l'ambassadeur d'Italie. Nous vivons des temps extraordinaires, un temps de pandémie, un temps de changement, un temps en définitive de prise de conscience comme quoi nous sommes tous la même personne sur la même planète, un temps de nous rappeler et d'écouter comme toujours ce que nous disait Luís de Camões à la fin du premier chant des Lusiades. Dans la mer, tant de tourmentes, tant de dommages, et la mort qui nous poursuit, tant de besoins où on peut accueillir un être humain et où retrouver cette vie courte qui ne s'arme pas, s'indigne, sans se rencontre, une bête de la terre, si petite, tant de tourmente, où nous avons besoin de lumière à l'horizon, qui oriente notre navigation, qui illumine notre espoir, des étoiles, des exemples. Voilà, c'est là l'exemplarité et le sens ultime du prix Nord-Sud, celui de reconnaître comme sa concession et en le faisant, en pointant, en signalant une étoile, un référent qui donne un cap à notre navigation collective, à notre action personnelle, qui montre que changer est possible, qui nous interpelle à ne pas nous résigner. Un exemple de solidarité, de transcendance des limitations elles-mêmes, de volonté d'aller au-delà du Nord et au-delà du Sud et de faire des droits de l'homme des réalités humaines. Un engagement vis-à-vis de la démocratie, de l'état de droit, et du développement et de la paix. Faire du rêve une réalisation et l'argument de notre espérance. Une condition commune aux deux lauréats pendant plus d'un quart de siècle déjà du prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Une condition que nous reconnaissons maintenant à Leo Luca Orlando et à Nabila Hamza. Et si nous les reconnaissons leur accordons ce prix, c'est par ce qu'ils ont fait, où, quand et comment, et nous ne pouvons le faire qu'en leur disant un très grand merci. Merci, Leo Luca Orlando, de nous avoir montré et nous avoir appris à voir la personne qui existe dans chaque migrant. Et c'est grâce à votre intervention au niveau de Palerme et de montrer aux municipalités d'Europe comment développer des politiques d'intégration et en proclamant dans la charte de Palerme le droit à la mobilité internationale, en incarnant au niveau le plus proche des citoyens l'autorité publique engagée comme les droits humains de tous les êtres humains qui en dépendent. Merci de votre autoritas. Merci, Nabila Hamza, de votre lutte envers les droits et la capacitation des femmes. Et si nous sommes, il faut être homme ou femme, nous sommes tous identiques. Ce que nous voulons, c'est la démocratie pour réaliser les droits de l'homme et faire en sorte que la démocratie permette que les engagements de la société civile puissent émaner des institutions et arriver aux familles, aux personnes. Merci aux deux lauréats de montrer au nord et au sud de la Méditerranée quelle est la lumière de la solidarité, de l'espérance et faire en sorte que la Méditerranée soit une mer de paix, de coopération, développement, prospérité partagée. Et la vision de la déclaration de Barcelone dont nous venons de célébrer les 25 ans. Un objectif par rapport auquel le Centre Nord-Sud entend contribuer. En ce temps d'incertitude, en ce temps d'ombre, dans cette ville où, sans la nommer, se situe d'ailleurs son essai sur la cécité de José Saramago dans les circonstances actuelles, sur notre condition actuelle. Merci beaucoup, Nabila Hamza. Merci beaucoup, Leo Luca Orlando, d'être nos étoiles, d'incarner aujourd'hui et toujours le prix Nord-Sud, faire un nouveau chapitre ou rédiger un nouveau chapitre de son histoire, apporter votre voix, joindre vos voix au prix Nord-Sud, à notre voix commune. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Comité exécutif Nord-Sud. J'aimerais maintenant passer la parole au Président de la délégation de l'Assemblée de la République, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le député Pedro Beslar de Vosges-Concerts, à qui je passe la parole. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, merci beaucoup. Permettez-moi de saluer tous les présents. Monsieur le Président de la Commission parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le Directeur exécutif du Centre Nord-Sud, les absents qui, à distance, nous suivent et nous écoutent en soulignant tout particulièrement notre lauréate Nabila Amsab parmi nous et Monsieur l'ambassadeur d'Italie en représentation du deuxième lauréat, Monsieur Leoluca Orlando. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération, Nord et Sud désignent une direction transversale à toutes les latitudes et pointent dans un sens qui unit un pôle à l'autre. Fait du hasard ou prédestination mystérieuse, les deux lauréats est décerné cette année le prix Nord-Sud et à qui nous rendons aujourd'hui hommage ici, Leoluca Orlando et Nabila Amsa, sont nés face à face, à l'endroit où la rive nord et la rive sud de la mer Méditerranée se rapprochent le plus, en Sicile, sur le talon de l'Europe, dans le golfe de Tunis, auprès des ruines de Carthage. Ensemble, ils personnifient une singularité géographique qui s'inscrit au centre même du propos fondateur de ce prix, à savoir reconstituer un monde divisé, réconcilier les deux hémisphères de la planète, mettre fin à la division funeste qui a été lancée par les guerres puniques il y a plus de deux millénaires, par la dispute entre Romains et Carthaginois sur le contrôle de la navigation en mer Méditerranée. Cet espace aquatique vers où convergent trois continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, et qui, à travers le détroit de Gibraltar, s'ouvre sur l'Occident vers l'Atlantique et les Amériques. Aussi, il y a la narrative millénaire, narrative humaine millénaire de Sapiens Sapiens a été écrite du sud vers le nord, de l'Orient vers l'Occident, d'innombrables guerres et massacres dictées par une ambition féroce, une impitoyable rapine ont dessiné à coups de sang les derniers siècles. Il est temps de changer le cours de l'histoire, de remplacer le conflit par la coopération et, à la place de la perfidie, construire une solidarité capable de durer pour toujours. Au large de la Sicile s'érige une île qui synthétise la plus grave tragédie de notre temps, l'île de Lampedusa, terre natale de l'auteur du roman prémonitoire Le Guépard de Giuseppe Tomasi, qui inspirerait plus tard le chef-d'œuvre du même nom de Luchino Visconti. Lampedusa, un lieu refuge, un port distant et mémorial terrible, malheureux sort des réfugiés et migrants qui traversent le Pacifique, l'océan Indien ou la Méditerranée à la recherche de quelque chose qui apportera quelque chose à leur vie. Et là, ils n'ont trouvé la paix et la tranquillité qu'ils recherchaient en vain qu'au fond de ces eaux obscures. C'est un honneur pour la délégation portugaise à l'Assemblée parlementaire de témoigner et d'assister à la remise solennelle du prix Nord-Sud cette année décerné à Nabila Amsa, féministe tunisienne engagée dans la lutte pour l'égalité de genre dans la seule démocratie qui a survécu au malencontreux perdant arabe, et à Leoluca Orlando, le maire de Palerme, infatigable défenseur des droits de l'homme, des immigrants et de leur plein accès à la citoyenneté. À tous deux, nous vous exprimons notre profonde gratitude. Merci. La parole à Madame la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Maria Buritz, qui intervient à partir de Strasbourg. À vous, Madame, merci.
Le président de l'Assemblée de la République du Portugal, Monsieur le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée de la République portugaise, Mesdames, Messieurs les lauréats de prix Nord-Sud, Monsieur le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud. Oui. Vous m'attendez?
on vous entend très bien.
Ah d'accord, d'accord, je continue. Donc, Monsieur le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, Monsieur le Directeur du Centre Nord-Sud, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de féliciter Nabila Hamza et Léo Luca Orlando pour le prix Nord-Sud qui leur a été décerné cette année. Ces deux personnes éminentes ont montré leur profond engagement en faveur des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, les valeurs qui sous-tendent le Conseil de l'Europe et du fait le prix. Madame Hamza, vous avez été sélectionnée par le jury en reconnaissance de votre rôle moteur dans la réforme du droit de la famille en Tunisie. En tant que directrice exécutive du Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche, vous avez joué un rôle pionnier dans la sensibilisation aux questions et aux droits des femmes, dans la lutte contre les idées fausses et dans l'encouragement de l'égalité des sexes. Mais au-delà, vous avez plaidé pour une société civile plus forte et pour la pleine participation des femmes à la vie publique, et vous avez donné l'exemple. Vous, qui êtes une des premières femmes élues au conseil local en Tunisie, vous montrez aux femmes dans tout le pays et au-delà que pour une démocratie qu'elle soit aboutie, il faut que les femmes fassent partie de ceux et celles qui prennent les décisions dans la vie publique. Monsieur Orlando, le prix vous a été décerné en reconnaissance de l'action que vous avez menée pour soutenir l'intégration des migrants et pour renforcer les droits de l'homme et l'état de droit au niveau local. Je sais en particulier que le jury avait à l'esprit la charte de Palerme que vous avez élaborée en 2015 afin de défendre la mobilité internationale. Et le Conseil des cultures, organe consultatif que vous avez créé pour permettre aux migrants d'élire des représentants qui expriment leurs préoccupations, leurs besoins et leurs points de vue. Il s'agit d'initiatives importantes et novatrices. Et là encore, il y a plus à dire. En tant que maire pendant le printemps de Palerme, vous avez dénoncé les pratiques mafieuses. Vous avez encouragé le dialogue et le renouveau civique dans ce qui est devenu la renaissance de Palerme. Et en œuvrant pour l'équité, la justice sociale et la bonne gouvernance, et en combattant la corruption et les dommages sociaux et économiques qui accompagnent toujours ce fléau, vous vous êtes battu pour ce qui est juste, sans craindre de prendre personnellement des risques. The decision on this year's winners was in fact taken back in 2019.
La désignation des lauréats, à vrai dire, a eu lieu en 2019. Depuis lors, l'Europe et le monde entier se sont heurtés à la réalité terrible qu'est la pandémie de COVID-19. Mais je pense qu'il est juste de reconnaître que la réponse qu'ont apportée les lauréats de cette année à cette pandémie n'a fait qu'entériner la décision qui fut de leur remettre leur prix. Madame Hamza, dans sa ville, a été la cheville ouvrière de la réponse à la crise et elle a œuvré à la définition d'un plan social et sanitaire qui accorde une attention particulière aux besoins des groupes les plus vulnérables. Monsieur Orlando, quant à lui, a lui aussi défendu les besoins de ces gens et dénoncé les dangers d'assister à une résurgence de la mafia et a lancé un appel pour une solidarité internationale et un plan Marshall pour l'Europe. La lutte en faveur des droits de l'homme, de la démocratie et de la primauté du droit n'est jamais gagnée. C'est une bataille sans fin, une lutte constante dans des circonstances qui changent toujours et qui souvent sont redoutables. Nous le voyons aujourd'hui et nous sommes heureux d'avoir parmi nous Nabila Hamza et Leo Luca Orlando qui, dans cette lutte, sont inébranlables. En remportant ce prix, ils rejoignent une liste de 50 lauréats éminents qui ont été choisis dans les deux hémisphères au cours des 25 dernières années. Tous ensemble, ils composent un ensemble riche et coloré d'expériences et de talents. Tous partagent une vision commune et tous partagent des compétences et des réalisations hors de l'ordinaire. Nous leur devons beaucoup pour leur contribution, comme nous devons remercier très sincèrement les autorités portugaises pour leur appui généreux et de longue date au prix Nord-Sud, certes, mais aussi au travail du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Dans l'intérêt de nous tous, puissent les passerelles qu'ils jettent devenir toujours plus robustes. Encore une fois, toutes mes félicitations aux lauréats. Merci.
Je vous remercie. Je remercie Madame la secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Je passe la parole au président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Rick Thames. À vous, monsieur. Merci.
Mr. Speaker, distinguished laureates,
Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, chers lauréats, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur que de participer à cette réunion. Une fois encore, l'Europe revient toujours dans l'œuvre d'Eduardo Lorenzo, notamment la Saudade. Depuis 1978, ce travail n'a jamais perdu de sa pertinence. Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Mesdames et Messieurs, c'est donc un honneur que de participer à cette remise des prix. Depuis 25 ans, le prix Nord-Sud a distingué des hommes et des femmes qui ont apporté une contribution sans pareil à la promotion de la solidarité Nord-Sud, aux droits de l'homme et à l'étoffement du dialogue entre les cultures et les sociétés. Les droits de l'homme sont universels, indivisibles, interdépendants et interliés. Et donc, à l'heure de la pandémie de COVID-19, la solidarité entre le Nord et le Sud a une importance toute particulière. Car dans le monde interconnecté et global dans lequel nous vivons, l'urgence sanitaire que la COVID-19 nous touche tous. Chaque individu doit jouir de dignité et des mêmes droits fondamentaux et libertés fondamentales. C'est le principe fondamental sur lequel les sociétés humaines et les droits de l'homme reposent. C'est une leçon que nous avons appris de cette pandémie, c'est-à-dire que l'importance, j'ai nommé l'importance du multilatéralisme et de la coopération internationale. des actions unilatérales ne permettent pas d'arriver à des solutions efficaces. La solidarité et les valeurs fondamentales sont deux notions qui doivent être notre phare pour répondre à cette crise. La solidarité parce que personne ne peut relever ce défi et résoudre cette crise seul. C'est notre devoir que nous aider les uns les autres. Les valeurs fondamentales parce que la démocratie, les droits de l'homme et la primauté du droit ne peuvent pas être des dommages collatéraux de cette pandémie. L'isolationnisme et la réduction des droits ne saurait devenir la nouvelle normalité. Le respect pour les droits fondamentaux, garde-fous la primauté du droit sont des lignes rouges qui ne sauraient être franchies, même à une époque d'urgence. Notre engagement en faveur de la solidarité et de la dignité humaine peut être démontré par l'action individuelle qui, là où elle est le plus nécessaire, d'où l'importance symbolique de ce prix Nord-Sud et de nos lauréats. Je voudrais féliciter Madame Nabila Hamza qui est ici présente de ses efforts sans relâche afin de lutter contre les inégalités, de faire avancer l'égalité entre les sexes et d'œuvrer au développement durable, en particulier en plaidant contre le changement climatique. Madame, votre engagement et vos efforts en la matière pour ce qui est de relever le défi environnemental me sont particulièrement chers, car l'environnement est un droit humain. Et pour cela aussi, nous apprécions votre travail, ce qui est particulièrement vrai lorsque l'on célèbre les journées contre la violence faite aux femmes. Nous devons lutter contre ce fléau. Je voudrais également saluer M. Léo Luca Orlando, maire de Palerme. Si nous devions penser à un exemple de défi qui fait appel à la solidarité Nord-Sud, eh bien, la migration nous vient immédiatement à l'esprit. Et lorsque je pense à la migration, je pense à la Turquie, à la Grèce, à Malte, à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal. Des pays qui doivent gérer des flux migratoires multiples qui sont en croissance rapide, y compris du fait du changement climatique. Palerme est un exemple de l'intégration réussie des migrants. Grâce aux efforts de M. Orlando, la ville de Palerme a donné une voix aux migrants en les associant. Et voilà qui est, à mon avis, un très bon exemple de dialogue et de solidarité. Toutes les notions que j'ai évoquées sont au cœur du travail et du travail que fait le Centre Nord-Sud et du processus Nord-Sud. Et nos lauréats sont un grand exemple de la façon dont l'action individuelle peut faire avancer des droits humains universels, indivisibles et interdépendants. Donc j'aimerais vous remercier pour ces contributions si précieuses à la cause des droits de l'homme, des libertés individuelles et de la primauté du droit. Merci beaucoup.
Orlando.
Merci beaucoup. Je remettrai maintenant le prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe 2019 aux lauréats Nabila Hamza et Léo Luca Orlando. La parole.
recebe o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa.
Nous remettons le prix Nord-Sud à la lauréate Nabila Hamza.
Recebe o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa.
Nous remettons le prix Nord-Sud à lauréat Leoluca Orlando, représenté par l'ambassadeur d'Italie au Portugal, M. Formosa.
Tem a palavra a laureate.
La parole à la lauréate, Madame Nabila Hamza. À vous, Madame.
Bonjour à tous, Monsieur le Président du Parlement portugais, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, Monsieur le Président de la délégation portugaise auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame la Secrétaire d'État des Affaires étrangères et de la coopération du Portugal, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, je voudrais tout d'abord exprimer toute l'émotion qui est la mienne ce matin à l'occasion de cette remise de prix. Je suis d'autant plus heureuse de me trouver ici au Portugal que votre pays, Monsieur le Président du Parlement portugais, a montré l'exemple en matière de respect des droits et de la dignité des migrants et en priorisant les mesures protégeant les plus vulnérables dans sa riposte à la COVID-19. Je tiens également à exprimer ma gratitude et mes remerciements à tous les membres du jury pour l'attribution de ce prix qui m'honore et surtout m'invite d'aller à l'avant. Cette haute distinction me conforte dans la voie que j'ai choisie et me donne encore plus de courage pour le chemin qu'il reste à parcourir pour la promotion des droits de l'homme et l'admission des femmes à l'égalité. Une égalité qui, comme vous le savez, reste plutôt une déclaration d'intention, voire une utopie dans nombre de pays. Je tiens également à remercier mes amis. Ce prix n'est pas seulement pour moi. Je le partage avec les nombreuses militantes des droits des femmes qui, dans mon pays et dans d'autres pays aussi, se battent sans répit depuis des décennies pour réformer des codes de la famille qui sont anachroniques et rétrogrades, qui dénoncent les violences à l'égard des femmes, qui dénoncent le sexisme, condamnent la violence et revendiquent l'indépendance économique des femmes et la parité en politique. C'est aujourd'hui, avec beaucoup de reconnaissance pour le combat qu'elles ont porté et que beaucoup d'autres continuent à porter, que je veux dédier ce prix aujourd'hui. À titre plus personnel, je tiens à témoigner ma reconnaissance à mes parents qui m'ont inculqué les vraies valeurs de tolérance, de solidarité et de justice sociale et qui ont semé en moi les grains de cette ferveur militante qui m'habite aujourd'hui. J'ai une pensée particulière pour mon père qui aurait été très fier de voir une telle consécration de mon parcours. Mesdames, Messieurs, ce forum prend place au bout d'une année difficile, bouleversée par une crise sanitaire et sociale sans précédent et lourde de conséquences pour l'ensemble de l'humanité. Les mesures prises par certains gouvernements deviennent chaque fois plus draconiennes. La pandémie pousse nos institutions à agir dans l'urgence et l'incertitude. Les décisions prises pour endiguer le virus ont été perçues, certes, comme nécessaires, mais aussi beaucoup d'autres fois comme inefficaces, unilatérales et liberticides, mettant à mal notre démocratie, nos libertés et notre système de gouvernance. Hôpitaux en panne de moyens, pénurie de médicaments et protection, État social désarmé face à l'ampleur de la détresse et des besoins, à la faveur de la Covid-19 et des confinements successifs, plusieurs carences de l'État et des services publics ont été ainsi mises en évidence. Cette crise a par ailleurs révélé l'étendue des inégalités de genre et des rapports de genre. Comme chacun sait, et monsieur l'a déjà mentionné, le monde a connu une terrible flambée de violences conjugales avec la pandémie et la mise en quarantaine, condamnant les victimes et les bourreaux à cohabiter de manière continue dans le même espace. Cette augmentation du taux de violence contre les femmes a coïncidé avec la dégradation des services publics, la fermeture des tribunaux de famille, l'absence ou la difficulté d'accès aux refuges et aux centres d'aide, l'indifférence de la police et parfois des autorités. Les inégalités de genre se sont également traduites dans le rapport au travail. La crise sanitaire a en effet exacerbé les rôles traditionnels entre hommes et femmes. Elle a doublé la journée de travail des femmes. Tout le travail non rémunéré a augmenté, ce qu'on appelle l'économie des soins, toutes ces tâches qu'on prodigue aux parents, aux enfants, aux handicapés et ce qui s'ensuit. Pour beaucoup de femmes, la conciliation du travail rémunéré à distance et le travail non rémunéré a exigé d'elles beaucoup d'efforts, en particulier les femmes qui sont soutien de famille monoparentale. Alors que les écoles, les crèches, les maternelles sont fermées, comment jongler entre gagner de l'argent, prendre soin des enfants, des personnes âgées et des handicapés? Dans le même temps, cette pandémie, messieurs, dames, a mis en évidence les inégalités croissantes dans le monde et elle a montré combien est généralisée la pauvreté et l'insécurité dans le monde. Les files d'attente massives pour l'aide alimentaire d'urgence que nous avons vues un peu partout, dans tous les pays et toutes les communautés, y compris dans des pays comme les États-Unis qui sont considérés comme une puissance économique mondiale. Ces files d'attente sont devenues un symbole de la détresse sociale. Ceux qui faisaient la queue pour recevoir l'assistance n'étaient pas seulement les travailleurs les plus pauvres, mais des pans entiers des classes moyennes qui ont été déclassées et qui ont dû justement prendre ces files et qui n'auraient jamais imaginé faire une telle chose de leur vie. Dans ce contexte, il serait naïf qu'une fois cette urgence médicale passée, les pays et le monde pourront continuer comme avant, comme si de rien n'était. La colère et l'amertume trouveront immanquablement de nouveaux débouchés. C'est pourquoi Nous avons un besoin urgent de mettre les choses à plat et de renouveler les concepts. L'épidémie du Covid-19 nous incite tous, militants, intellectuels et gouvernants, à repenser le rôle de l'État et de la collectivité, à revoir notamment le système économique, la notion d'État social, dont la sécurité, les soins médicaux, la protection sociale, l'économie des soins, la division du travail entre hommes et femmes et bien d'autres choses encore. Plus que jamais, nous devons nous inscrire notre réflexion dans le changement climatique, la mondialisation, nos rapports avec nos voisins, aussi bien du Sud comme du Nord. Bref, cette pandémie nous incite à réfléchir au monde d'après. Mesdames, Messieurs, la fin de cette même année a été marquée par le regain de la terreur, la culture de la mort, la souffrance et la sidération. L'assassinat du professeur Samuel Paty et les horribles attentats de Nice et de Vienne, commis contre des innocents par des terroristes, manifestement inspirés par le fanatisme religieux et le djihadisme salafiste. Comment en est-on arrivé là? Comment réagir à l'irruption de la terreur et les fanatiques du ténèbre dans le monde? Nous, féministes, militants et militantes des droits de l'homme, ne pouvons rester indifférentes à ces actes odieux commis au nom de Dieu que nous dénonçons avec force. Nous considérons que rien, mais rien, ne justifie le terrorisme, pas même le blasphème et pas même l'outrage au sacré. Nous nous sentons d'autant plus impliqués, nous, Tunisiens, que nous avons dans notre propre pays, la Tunisie, en pleine transition démocratique difficile, à défendre notre liberté d'expression, la liberté confessionnelle, la liberté vestimentaire, la liberté d'opinion et les libertés académiques qui ont été mises à mal et menacées. Contre l'obscurantisme, du nord au sud, notre combat est le même, ici et ailleurs. Dans nos associations, dans mon association, nous recevons tous les jours le témoignage des hommes et des femmes victimes de ceux qui, au nom de Dieu, au nom de la morale, la religion, assassinent, séquestrent, mutilent, frappent et tuent. C'est contre ces assignations, contre les violences qui les accompagnent, que nous nous battons aujourd'hui. Oui, nous nous considérons partie prenante de ces crimes qui éclatent ailleurs que chez nous. Il n'y a pas longtemps, tombé en Tunisie, sous les mêmes balles des terroristes, les leaders de la gauche Chokri Belaïd et Mohamed El Brahmi, dont l'assassinat avait ébranlé en 2013 la Tunisie post-révolutionnaire. Plus récemment encore, il y a simplement 2 semaines, dans un pays voisin, la Libye, l'assassinat de l'avocate et militante des droits de l'homme, Hanan El Barassi, à Benghazi, est un autre événement d'une horreur terrible. Hanan était une ardente défenseuse des droits des femmes et une critique courageuse des groupes armés et des milices qui violent les droits de l'homme, qui sèment la mort et la haine et la ruine. Non, les pays européens ne sont pas seuls frappés par le terrorisme. Ces crimes ignobles montrent et sont la preuve supplémentaire qu'il y a une transnationalisation du terrorisme et de la mouvance terroriste. Et elles montrent aussi les dangers auxquels sont confrontés les défenseurs des droits de l'homme pour que cela cesse. Féministes, nous pensons encore plus fermement aujourd'hui que c'est en restant solidaires et en construisant un projet collectif émancipateur, porteur de progrès pour tous, le Nord comme le Sud, et en renforçant la coopération entre les deux rives de la Méditerranée, que nous ferons reculer l'obscurantisme, le terrorisme et toutes les autres idéologies de la haine. Nous rejetons avec la même détermination toute instrumentalisation de ces drames et tous les discours haineux propagés par certains pays responsables, par certaines forces politiques et certains médias européens contre les migrants, ainsi que nous rejetons les amalgames inacceptables visant à rendre les populations musulmanes responsables et coupables. Non, elles ne sont pas responsables et coupables. Les actes barbares qui ont été commis n'engagent que les auteurs qui les ont commis, ceux qui les manipulent, ceux qui les cautionnent et ceux qui les financent. Mesdames, Messieurs, droit et égalité des chances pour les femmes, une vie sans violence, une vie plus juste, ce sont les objectifs qui ont été fixés par la conférence de Beijing en 1995 et le plan d'action de Beijing. 25 ans après, cette égalité de sexe n'est atteinte nulle part, mais alors nulle part. À l'échelle mondiale, les femmes continuent de gagner 24% moins que les hommes. Elles supportent toute la charge du travail de ce qu'on appelle l'économie des soins, the care economy. Une femme sur trois subit la violence dans sa vie sexuelle ou physique. 5% des femmes dans le monde ont été violées depuis l'âge de 15 ans. Ce sont les chiffres des Nations Unies, ce ne sont pas les miens. Près de 150 millions de femmes aujourd'hui ne sont pas scolarisées, de petites filles. 41% des femmes dans le monde vivent dans les pays qui ne leur donnent pas accès à l'avortement sécurisé, comme c'est le cas de la Pologne. Et je salue le mouvement des féministes polonaises qui sont sortis, hommes et femmes, dans la rue pour proclamer ce droit. Les femmes, enfin, n'occupent que 24% des sièges parlementaires dans le monde. Je ne sais pas combien vous êtes au Parlement européen, au Parlement portugais, mais 24% dans le monde, ce n'est pas beaucoup. À la vitesse actuelle, l'égalité des sexes sera atteinte dans une centaine d'années, selon le calcul des Nations Unies. Dans mon pays, malgré les acquis indéniables depuis l'indépendance et notamment depuis la Révolution qui a inscrit l'égalité dans la Constitution de 2014, les femmes ne jouissent toujours pas de l'égalité totale en droit et nombre de discriminations persistent, notamment dans le code de la famille, c'est-à-dire le mariage et la famille. L'époux est toujours chef de famille et l'inégalité successorale dans l'héritage n'est pas respectée, reproduisant ainsi l'ordre patriarcal et hiérarchique de la famille et de la société. L'arrivée des islamistes dans mon pays, qui ont été appuyés par pas mal de pays européens, l'arrivée des islamistes sur la scène politique après la révolution de 2011 n'a fait que freiner le progrès vers l'égalité en mettant en cause les acquis fragiles pour lesquels les femmes ont lutté pendant longtemps et en bloquant surtout l'élan réformateur et le caractère laïque de l'État tunisien. La bonne nouvelle est que nous connaissons en même temps, partout dans le monde, une vague de mobilisation qui s'y oppose, qui est sans précédent. Les femmes prennent la tête de nombreuses manifestations pour l'égalité des droits, la parité, la dépénalisation de l'avortement, la protection des victimes de violences sexistes, mais aussi la démocratie et les droits humains. Elles prennent la tête de ces manifestations en Algérie, au Maroc, au Liban, en Irak, au Chili et en Pologne également. En Tunisie, elles étaient des milliers à défiler en 2018 devant le siège de l'Assemblée nationale pour réclamer l'égalité dans l'héritage. Il faut savoir que l'égalité dans l'héritage est un sujet tabou dans le monde musulman. On n'en parle pas. C'est péché. Et elles sont sorties pour réclamer cela et faire barrage aux discours régressifs et misogynes des islamistes qui gangrènent mon pays. Elles forment partout, ces femmes, le noyau de contestation contre les régimes populistes et totalitaires dans le monde. Et avec l'aggravation de la crise du climat et des ressources, ce sont surtout les plus jeunes des femmes qui rejoignent la mobilisation internationale pour le climat qui essaime partout dans le monde à l'appel de la jeune Suédoise Greta Thunberg, devenue l'idole d'une jeunesse qui demande un changement radical des politiques environnementales. Ces femmes, aussi diverses que leurs revendications et leurs luttes, ne cherchent pas seulement à réaliser leurs propres droits, mais elles cherchent également à changer les réalités politiques pour tous. C'est la diversité de ce paysage féministe global, avec sa merveilleuse force de mobilisation, qui me semble réside la chance du monde et la seule option pour faire face contre le backlash mondial, le terrorisme, l'injustice et les forces de la régression. Je voudrais, pour terminer, dire un mot en direction de mon confrère Léo Luca Orlando, maire de Palerme, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre dans ce magnifique hémicycle du Portugal, un véritable musée. Je le regrette beaucoup. Je veux simplement lui dire, votre combat acharné, Léo Luca, pour la protection des migrants, pour l'intégration des migrants, pour renforcer la cohésion sociale et territoriale et faire de nos villes des villes solidaires, inclusives, fait de vous un exemple pour des millions de femmes et d'hommes à travers le monde. Je suis d'autant plus heureuse d'être candidate et lauréate de ce prix à vos côtés que je suis moi-même conseillère municipale et j'ai été première vice-maire. Et je crois, tout comme vous, au pouvoir des communes et des citoyens pour relever les défis, mettre fin à la dégradation de notre environnement, à la perte de nos espaces verts, à la corruption, à la précarité, l'exclusion des migrants et contribuer ainsi à améliorer notre cadre de vie. Ce qui m'anime personnellement, c'est réapprendre le sens civique, impliquer chacun dans la prise de décision, faire prendre conscience que la commune, c'est chacun d'entre nous, ce n'est pas le maire. Je crois aux petites actions, aux petites révolutions, qui ne font pas toujours du bruit, mais qui peu à peu se multiplient jusqu'à devenir une norme. Merci infiniment à tous les membres du Conseil de l'Europe. Merci au Portugal et aux autorités portugaises de m'avoir fait cet honneur, au Centre Nord-Sud également, et de mettre ainsi en exergue le combat de la société civile dans le monde. Un grand merci aussi à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu pendant toutes ces années et qui m'ont donné le goût de poursuivre. Merci pour votre hospitalité.
Merci, Nabila Hamza. Tem agora a palavra o
La parole maintenant au lauréat Léo Luca Orlando qui intervient à partir de Palerme. À vous, monsieur.
Okay. Good morning. Oh, fine. Good morning. I wish just I must express my respectful regards and my gratitude, first of all, to the President of the Portuguese Republic, Marcelo Rebelo de Sousa, and I wish just to share the national mourning for the disappearance of Professor Eduardo Lourenço, a great philosopher, a great Portuguese that I appreciated, the world appreciated. Lourenço was really, really in the middle of the greatest philosophical European culture. And just in this moment, I remember Heidelberg and Hamburg, Kierkegaard and Heidegger, that were strongly, strongly connected with the experience of Lourenço, Eduardo Lourenço. I wish to say my respectable regards to Mr. President of the Assembly of the Republic, to Mr. President of the Assembly of the Council of Europe, to Madam Secretary General of the Council of Europe, to Mr. Chair of the North-South Senate, to Mr. Ambassador of Italy, Carlo Formosa, to all the authorities, and of course, to Madam Vice President of the Municipality of La Massa, sharing with me, Nabila Hamza, this privilege today. Today's ceremony is a source of great honor, emotion, and hope. And I wish to say thanks to the jury for the attention to my experience. It certainly is for me, but also for all those of Euphoria, and especially in the recent difficult month, have been committed to promote and protect the rights of all, men and women, children, even persons who try to give guarantee for the human and civil rights, for fundamental and inalienable right to live. We take care. We have attention to the rights of women and their democratic participation in civil and institutional life. This ceremony is a reason for hope because it proves the commitment of national and international institutions to reaffirm the culture and practice of human rights after extremely difficult years, even in Europe. In fact, in recent years, we have witnessed the return and strengthening of cultures and policies that have built and fueled social division and fear. Fear of the different, fear of the new, fear of the foreigner. In many countries, even in Europe, anti-democratic positions have emerged, building their own narrative and setting their own internal international policies precisely on the limitation of fundamental rights, even if recognized these rights by the treaties and the founding charters of European law. But as well before, the verbal and material extremism of some political positions were witnessed the more widely the need of fundamental rights, the construction of too often timid policies and the defense of the weakest, sometimes to choice that they have led to death, and mourning along all the borders of Europe, from the Mediterranean to the Balkans. When did migration stop being a right for a better life for yourself and loved ones? When did it become a concession or even a crime? When the word castaway, which for centuries has been synonymous with persons in difficulty to help, has turned into dangerous person to be rejected? How it is possible in the world of total globalization and the freedom of movement of goods, capital and data, and today also of the virus, that the only ones whose mobility is controlled and curbed are the human beings? How it is possible today, however, we all have clear in mind that defending the rights of an individual, all the rights of each one, means defending our own rights, to affirm that we are all part of the global human community. Starting from a milestone awareness raising campaign conveyed consent.
Nous avons lancé une campagne historique de sensibilisation a été lancée par le Conseil de l'Europe dans les années 90. Dans ma vie, nous avons créé la charte de Palerme qui a été approuvée en 2015. Tous différents, tous égaux. Voilà la campagne du Conseil de l'Europe qui a affirmé avec grande prémonition le besoin d'une mondialisation des droits et de l'égalité qui n'était pas un stéréotype et qui n'était pas la négation l'affirmation des identités de tout un chacun. Avec la charte de Palerme, nous avons choisi d'affirmer que nous sommes une personne et nous sommes une communauté. Je suis une personne. Chacun d'entre nous est une personne porteur d'individualité, de droits, de devoirs, et d'une histoire, d'une culture, d'une identité. Mais je suis aussi une communauté. Je suis partie toujours et dans tous les cas d'une communauté, dans celle que j'ai, de celle où j'ai choisi de vivre, une communauté qui n'existe qu'en tant qu'union de minorités, une union de maintes identités, toutes différentes et toutes égales. Comme jamais auparavant, le virus nous a enseigné que nous sommes des communautés au niveau global, que face aux défis si nombreux et si graves, il ne peut y avoir de réponse individuelle, qu'il s'agisse de la réponse d'un État ou d'un groupe particulier. Jamais comme aujourd'hui a-t-il apparu avec autant de clarté que les droits premiers liés à la paix, à la santé, à l'affranchissement de la faim, à la liberté d'expression doit être garantie partout et à tous ou ne sont garantis à personne. Et ceci en dépit des efforts de certains pour dissimuler les violations de ces droits derrière des murs physiques ou virtuels. Ceci même si certains sont encore convaincus qu'ils peuvent créer dans ce monde interdépendant et mondialisé une séparation entre nous et eux qui durerait dans le temps. Pour cette raison, dans la charte de Palerme, nous avons lancé une proposition qui est aussi juridique, selon laquelle la mobilité internationale devrait être reconnue comme un droit humain inaliénable, que le droit de choisir où vivre doit être reconnu, aussi bien que le droit de choisir ou essayer de bâtir un avenir pour soi-même et pour ceux que l'on chérit. À Palerme, dans notre modeste façon, dans les limites juridiques d'une ville qui ne peut pas légiférer, nous avons appliqué ces principes. Si quelqu'un me demandait combien de migrants il y a à Palerme, je ne pourrais pas répondre 50 ou 100 000. Je répondrais qu'il n'y a pas de migrants à Palerme. Tous ceux qui vivent à Palerme sont des palermitains. Bien sûr, je pense que bien entendu, tous ne sont pas légalement des palermitains. Ils n'ont pas de passeport italien ou de citoyenneté italienne. Mais chacun a le droit d'accéder aux services qu'offre la municipalité aux citoyens, quel que soit leur statut juridique. Encore une fois, l'expérience très pénible de l'urgence sanitaire qu'est la COVID-19 et qu'a été le confinement a permis à Palerme de montrer son visage solidaire et accueillant. Au plus fort de la crise sociale, l'Église catholique, les volontaires de Caritas et l'Église valdésienne ont tous accueilli nombre de palermitains musulmans du Bangladesh, de Tamil, de Sri Lanka. Et de la même manière, les associations de musulmans qui travaillent dans les quartiers du centre historique ont accueilli et aidé beaucoup de travailleurs italiens qui avaient perdu leur emploi ou leur revenu du jour au lendemain. Palerme a connu la peur, le sang et la honte apportées par la mafia et son système de pouvoir. Et Palerme a lutté et a payé un très fort prix et a couru de très graves risques pour affirmer la primauté du droit. Maintenant et depuis quelques années à Palerme, nous revendiquons et nous bâtissons la primauté du droit, certes, mais aussi la primauté des droits de chaque être humain, confirmée par les constitutions démocratiques et les déclarations universelles des droits, la Déclaration universelle des droits de l'homme, même si parfois ces droits sont malmenés par les droits et les lois des États. Mais aujourd'hui, l'expérience de Palerme n'est pas isolée et cette cérémonie le confirme. Avec bien d'autres maires de villes européennes et italiennes, nous avons construit un réseau de villes sûres, de ports ouverts. Nous avons dit qu'une ville, pour être sûre, doit accueillir tous ses citoyens, veiller à tous ses citoyens. Nous avons affirmé et nous le démontré chaque jour que l'insécurité n'est pas vaincue par la peur. mais en accueillant les gens et en leur apportant des soins matériels qui soient faits de service et des soins immatériels qui sont culture, hospitalité et solidarité. Et c'est certainement la tâche des maires, et pas seulement des maires, de lutter pour nous affranchir de la peur de ce qui est nouveau, qui est différent, pour chérir ce qui est nouveau et différent, pour accueillir ce qui est différent, afin de nous libérer de la peur. Et maintenant, j'aimerais dire que je crois, nous croyons que la Méditerranée n'est pas une mer qui divise les gens, c'est un continuum qui les unit. Et nous sommes ensemble, nous, pour envoyer un message au monde entier. La Méditerranée, et c'est en Méditerranée que réside la possibilité de changement. Le changement est possible, comme le disait Thomas dans le Guépard. Je voudrais donc remercier l'ambassadeur Carlo Formosa qui est présent et au cours de cette cérémonie, et remercier vous remercier de ce prix qui ne m'est pas décerné à moi, mais à tous ceux qui partagent cette même trajectoire. L'entreprise de Palerme et de bien d'autres villes sera plus forte une fois, et Conseil de l'Europe sera son phare culturel et matériel. Il est possible, toujours possible de changer, car Palerme a changé. Merci.
Muito obrigado, Leo Luca.
Je vous remercie, Leo Luca Orlando, et félicitations une fois encore. Nous allons maintenant écouter le message de Son Excellence le Président de la République, qui est adressé aux deux lauréats, mais également à tous les participants à cette cérémonie. Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Madame la Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame la Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président de la délégation de l'Assemblée de la République à l'APCE, Monsieur le Président du Conseil exécutif du Centre Nord-Sud, illustres lauréats, chers invités, mesdames et messieurs les parlementaires, excellences. Pour moi, c'est un honneur et une satisfaction que de m'associer cette fois-ci, pour une raison de force majeure, virtuellement à la cérémonie de remise du prix Nord-Sud. Ce prix est le symbole des valeurs de la paix, de la démocratie, du respect envers les droits de l'homme, qui ont tant à voir avec la fondation du Centre Nord-Sud et naturellement du Conseil de l'Europe lui-même. Cette année, le prix rend hommage à deux personnages singuliers, Nabila Hamsa de Tunisie, sociologue, activiste des droits des femmes, et Leo Luca Orlando, maire de Palerme, défenseur des migrants et des réfugiés. Il s'agit de deux exemples de vie qui se démarquent par leur force, par leur conviction et leur remarquable contribution à la défense et à la promotion des valeurs du Conseil de l'Europe. À tous deux, je leur dis un grand merci. Nabila Hamsa a un parcours extraordinaire dans la promotion des droits humains, dans l'appui aux femmes et dans l'appui à leurs droits. Avec de remarquables efforts entrepris en faveur de l'égalité de genre, en faveur de l'accès des filles et des femmes à l'éducation et au respect à l'égard des principes des droits de l'homme, tous les droits de l'homme. Et c'est ce qui lui a valu de successives reconnaissances, aussi bien en Tunisie qu'outre frontières. L'exemple de Nabil Hamsa constitue une source d'inspiration pour tous ceux qui continuent de se battre pour l'égalité, pour la justice, pour l'équilibre dans le traitement à l'égard des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes, en termes de droits, libertés garanties, mais aussi en termes de droits économiques, sociaux et culturels. Ce n'est pas une lutte qui date d'hier, c'est bien un combat d'aujourd'hui et de demain, et qui mérite naturellement d'être dûment souligné. En ce qui concerne le deuxième lauréat, Leo Luca Orlando, il est bon de dire que c'est un exemple dans la promotion de ces mêmes droits de l'homme et donc de la dignité de la personne humaine. Dans la façon dont il a exercé les différents mandats qui ont été les siens en tant que maire de Palerme, toujours pour la liberté et pour la tolérance contre la discrimination, la xénophobie et l'intolérance dans le traitement envers les migrants et les réfugiés. À l'instar, il ne s'agit pas là d'un défi d'attentière, c'est bien un défi d'aujourd'hui et de demain. L'inclusion, la lutte contre la xénophobie dans un temps marqué par l'unilatéralisme, le protectionnisme, l'hypernationalisme, par la différence entre nous et autrui, les miens et les autres. En interpellant l'état de droit, et dans le cas du lauréat, l'état de droit au niveau municipal, au niveau local, avec des parcours complètement distincts dans différents contextes. Les deux lauréats de cette édition du prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe finissent par être unis dans la même lutte ou bataille pour la justice, la dignité de la personne humaine, et inspirent tout un chacun. Inspire ceux qui, de par le monde, et notamment en Europe et dans les relations entre le Nord et le Sud, ceux qui, tous les jours, se battent pour ces mêmes valeurs. Et donc, c'est avec énormément de joie que je salue les deux lauréats et le jury qui a si sagement su les distinguer. Je saisis également l'occasion pour souligner le grand honneur qui est pour le Portugal d'accueillir depuis ses débuts le siège du Centre Nord-Sud, un engagement du Portugal vis-à-vis du Conseil de l'Europe et de ses valeurs. Aussi, c'est une tradition universaliste d'ouverture au dialogue dans les relations avec d'autres peuples, d'autres cultures et d'autres civilisations. Car là aussi, c'est un défi du présent et du futur. Et j'en profite pour saluer de façon très spéciale la participation au cours de cette cérémonie. Soyez le bienvenu, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et de Madame la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe. Soyez la bienvenue, Madame la Secrétaire Générale. Je vois en cette participation un signe de reconnaissance de l'engagement du Portugal dans ce qui constitue un défi de tous ceux qui se battent pour la démocratie et pour l'état de droit démocratique. Cher Président, chère Madame la Secrétaire Générale, soyez les bienvenus au Portugal. Ici, nous nous battons pour les mêmes valeurs, les mêmes principes qui importent réellement et qui expliquent pourquoi ceux qui reçoivent ce prix aujourd'hui ont été considérés comme étant un exemple pour différentes générations et leur combat pour les femmes et pour les droits qui sont les leurs, pour les migrants et les réfugiés et pour les droits qui sont les leurs, pour l'inclusion, pour l'égalité, pour la justice, pour la démocratie et pour l'état de droit. Merci infiniment en anglais. Merci beaucoup à tous en portugais. Merci beaucoup au Conseil de l'Europe. Fort bien, nous sommes ainsi arrivés au bout de cette cérémonie. Félicitations encore aux lauréats et je lève la séance.